Alors effectivement, comme Florent l'a dit, en fait, on arrive sur le dernier passage de cette série qu'on fait sur Élie. L'histoire d'Élie continue, il y a encore d'autres choses qui se passent après, mais là, c'est un peu la fin d'un récit particulier. Et en fait, c'est un peu comme moi, j'ai l'impression d'être face à une œuvre d'art, en fait. Vous savez, un truc... Et du coup, il faut s'arrêter un peu et puis regarder. Du coup, je vous invite à regarder ensemble. C'est pour ça qu'on va pas mal discuter, parce que le texte d'aujourd'hui, il est assez impressionnant. Juste pour revenir un peu sur le contexte, on a parlé souvent du contexte dans cette série-là. Et ça marche pas. La technique, décidément, ce matin. On se rappelle, en fait, qu'on est en train de parler du royaume du nord d'Israël à la fin de l'histoire de Salomon. Le royaume a été divisé en deux, avec le royaume de Juda au sud, le royaume qui a gardé le nom d'Israël au nord. Et dans ce royaume du nord, les rois qui étaient là, en fait, ne suivaient pas vraiment Dieu. En fait, ils faisaient le mal, ils se sont tournés vers des idoles, et les rois se sont enchaînés comme ça. Et puis, il y a un roi qui est arrivé, qui s'appelait Omri. Et en fait, ce roi, il était encore pire que les autres. Ce roi, Omri, il a eu un fils qui s'appelait Akab, qui est encore pire que son père. Et lui, il s'est marié avec Jézabel, qui a institutionnalisé le culte de Baal, en fait. Donc, sous l'influence du couple royal, le peuple s'est mis à adorer de plus en plus Baal et Asherah, et à faire vraiment ce qui est mal, d'une manière générale, et mal aux yeux de l'Éternel en particulier. Et donc, ce que fait Dieu, c'est qu'il met en place une sorte de double défi, d'accord ? Baal, c'est le dieu de la fertilité. Et pourtant, il n'y en a qu'un seul qui est capable d'arrêter la pluie ou de faire pleuvoir. Et c'est l'Éternel, et il le démontre. Baal, c'est le dieu du tonnerre. Il n'y en a qu'un seul qui peut faire tomber le feu du ciel. Et c'est l'Éternel. Une double démonstration parfaite, implacable, indiscutable. Baal est battu. Élie a démontré que Baal n'est rien, ne vaut rien, et qu'il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu, c'est l'Éternel. Et en fait, tout ce que fait cette démonstration, c'est qu'elle révèle, en réalité, qu'il y a des gens qui sont têtus, qui ne veulent rien voir, et notamment Jézabel. Qu'est-ce qui ressort de toute cette démonstration ? C'est que Jézabel arrive à une seule conclusion, Élie doit mourir. Elle avait déjà fait mourir, elle avait déjà essayé de faire mourir tous les prophètes de Dieu et en avait tué vraiment beaucoup. Mais là, en fait, ce qui apparaît à la fin de cette démonstration parfaite, c'est finalement que Élie doit mourir. Donc ce qui se passe, c'est que Élie prend peur, fuit dans le désert. C'est ce que Alain nous a raconté dimanche dernier. Il réclame même la mort. Et en fait, Dieu envoie un ange pour le restaurer, lui dit de prendre du repos, il lui donne à boire, il lui donne à manger. J'avoue que j'aimerais bien manger ce qu'il a mangé, parce qu'avec ce qu'il a mangé, il a marché 40 jours et 40 nuits non-stop. Si vous êtes fan d'Astérix, la potion magique à côté, c'est rien du tout. D'accord ? Et donc il marche 40 jours et 40 nuits, seul dans le désert, et il arrive à la montagne d'Horeb. Et là, c'est le texte qu'on lit ce matin. Donc il est sur la montagne d'Horeb, et le passage nous dit « Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » Pour bien comprendre ce qui va se passer ensuite, il faut qu'on se mette vraiment à la place d'Élie et qu'on comprenne dans quel état d'esprit est Élie. Et donc, à travers ce texte-là, à travers ce qu'on sait de l'histoire qu'on a vue avant, ou de ce qu'on peut imaginer, moi je vous pose la question, dans quel état d'esprit il est, Élie, là, dans ce passage-là ? Quel est son état émotionnel ? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre ? Comment il se sent ? Il est découragé. Angoissé. Il est seul, il le dit clairement, il est seul. Plus de perspective, effectivement. Plus de perspective, pas d'avenir. Voilà. Probablement, parce que là, Dieu a pris soin de lui physiquement pour qu'il aille au bout, mais émotionnellement, il a vécu un truc super intense. Et là, il vit un vrai moment d'épuisement, de découragement. Effectivement. Alors, il y a pas mal d'indices. Je n'ai pas relevé tout ce que vous avez dit, mais je pense que vous avez bien cerné la situation. Quand Jézabel dit « il faut que Élie meure », la première chose qu'il a dit, c'est « Élie prend peur ». Il prend peur et il s'enfuit. L'autre chose qu'on peut dire, effectivement, vous l'avez dit, c'est « il est seul », c'est exactement ce qu'il dit. Et quand on dit qu'on est seul, derrière, il y a l'idée que finalement, personne ne comprend ce que je comprends. Ce que je vis, personne vit ou a vécu. Il y a une sorte d'abandon, finalement, quand on est seul. D'accord ? Il y a la question de l'avenir et l'incertitude. Parce que jusqu'à présent, si vous vous souvenez les textes qu'il y avait avant, Dieu dit à Élie, prie pour qu'il n'y ait pas de pluie. Dieu dit à Élie, va au torrent, dont j'ai oublié le nom, pour que les corbeaux te nourrissent. Ensuite, Dieu dit à Élie, va voir la veuve de Sarepta. Ensuite, Dieu dit à Élie, va retourner à Cab, prie pour que, etc. Dieu dit, et Élie fait. Et tout à coup, Dieu dit plus rien. Et là, Élie, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sait pas quoi faire, donc il fuit. Mais c'est quoi la suite, Seigneur ? Là, il n'a pas la suite, en fait. Là, c'est lui qui prend l'initiative. Il ne sait pas. Donc, il y a l'incertitude de tout ce qu'il doit vivre. Dans ce qu'on a pu lire, il y a la question de la déception, de la frustration, parce que Élie s'est impliqué, il a fait plein de choses, il ne le dit pas, mais vraisemblablement, il avait des attentes dans tout ce qui s'est passé. À la fin de ce fameux combat, de quel Dieu sera capable de faire tomber le feu du ciel pour immoler l'offrande qui est là, on peut lire « Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant « Oh, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Ils redécouvrent, hein, d'accord ? C'était clair avant, c'était leur histoire, et tout à coup, ils redécouvrent leur histoire, en fait. Ils redécouvrent que l'Éternel est vraiment Dieu. Mais il se passe quoi après ? Rien. La plus grosse révélation qu'ils pouvaient avoir ne change rien dans leur vie. On voit que les prophètes de Baal sont mis à mort, mais parce que Élie leur dit « Mettez-les à mort ». D'accord ? On a, dans le royaume du Sud, plusieurs cas où des rois sont revenus à l'Éternel. Et quand ces rois sont venus à l'Éternel, qu'est-ce que le peuple a fait ? Le peuple a pris l'initiative d'aller détruire les autels de Baal, d'Achéra, etc., etc. C'est-à-dire que le peuple s'est impliqué. Ils ont réalisé ce qui s'est passé. Ils ont réalisé qu'ils étaient loin de Dieu. Et donc, dans leur volonté de revenir à Dieu, ils ont fait le ménage. Là, zéro ménage. Ils découvrent une vérité qui devrait changer leur vie, et là, il ne se passe rien. On peut imaginer qu'Élie, il est profondément déçu. C'est un échec. La démonstration est faite, elle ne sert à rien. Du coup, ce que j'ai vécu était inutile. Et l'avenir, c'est quoi ? L'avenir, c'est le découragement. Finalement, à quoi ça sert ce que je fais ? Ça sert à rien, c'est inutile ce que je fais. J'ai pas envie de continuer. Dans le terme qu'il utilise, Élie, il dit « j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel ». D'autres passages disent, d'autres traductions, pardon, « j'ai montré pour l'Éternel un amour brûlant ». J'ai déployé tout mon zèle. J'ai montré une passion jalouse. C'est-à-dire que Élie, il était émotionnellement engagé dans ce qui s'est passé, complètement. Et donc, il attendait que quelque chose se passe et il ne se passe rien. Pourquoi continuer ? Donc, on imagine Élie dans tout ça. Mais j'ai pas envie de continuer, quoi. Il est au fond du trou, Élie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, On avait fait une des séries qu'on avait fait avant, en fait, c'était la série sur Jacques. On avait fait un Pierre, mais avant, on avait fait Jacques. À la fin de Jacques, Jacques, il veut encourager les gens à la prière, et il dit, rappelez-vous Élie, il a prié pour que la pluie s'arrête. D'accord, c'est ce qui s'est passé. Or, Élie était un homme comme nous. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset-là. Moi, jusqu'à présent, jusqu'à ce texte-là, Élie est un homme comme nous. Non, Jacques, j'y crois pas. C'est pas possible. Je veux dire, Élie, il a prié pour que le feu du ciel tombe. Il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Il a ressuscité le fils de la veuve. Enfin, je veux dire, non, Élie, quand même. Je suis pas... Là, maintenant, je me sens un peu plus proche d'Élie. Bizarrement. Parce que, avouons-le, nous aussi, on passe par des moments comme ça, parfois. Ça peut être dans nos vies personnelles, on est en train de traverser des difficultés, des épreuves, on fait face à certains péchés avec lesquels on a du mal à se débarrasser, et peut-être que tout simplement la vie qu'on voulait avec Dieu ne prend pas la tournure qu'on espérait qu'elle prenne. Et on a l'impression qu'on est peut-être seul à vivre ça. Les autres, ils ont plein de succès. Ils témoignent à l'hôpital, ils se baladent en ambulance, enfin, il leur arrive plein de trucs incroyables. Et moi, à côté de ça, mais rien, quoi, en fait. Et je me sens un peu seul, je me sens un peu frustré. Mon avenir est incertain. Seigneur, il se passe quoi, là, dans ma vie? J'ai pas envie de continuer. Peut-être c'est dans nos relations, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes proches. C'est pas parce qu'on a des proches qu'on n'est pas seul, n'est-ce pas? Je me sens seul, je me sens incompris. Je suis dans des relations qui sont caractérisées par quoi? Par la déception, par la frustration, par l'échec. Pourquoi continuer? J'ai pas envie de continuer. C'est trop dur, je vois pas où ça va. Peut-être même c'est dans l'église. On n'a pas l'unité, on n'a pas l'élan, on n'a pas la direction que j'aimerais qu'on ait. Pour certaines églises, ben, on n'a pas de pasteur. Pour d'autres églises, on n'a pas le bon pasteur. Je peux le dire. Ou pour d'autres personnes, c'est on n'a pas assez de personnes impliquées, responsables dans les ministères, dans les activités. Et je suis déçu, je suis frustré, ça ne va pas à la bonne vitesse ou dans la bonne direction. Est-ce que c'est vraiment utile tout ce qu'on fait? Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer comme ça? Seigneur, où est-ce qu'on va là en fait? Et le problème, ce n'est pas que ces constats sont faux. Parfois ils le sont. Parfois les constats sont faux. Parfois ils peuvent être justes. Et ça n'empêche pas d'avoir ces sentiments, de vivre et de passer par ces moments-là. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est ça la vraie question. Maintenant, si je suis dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on fait pour retrouver la motivation, le sens, l'envie? Bon, j'ai bien posé le problème, et je n'ai pas la solution, forcément, à toutes ces questions-là. Ou en tout cas, il n'y a peut-être pas forcément une solution unique, parfaite, pour tout le monde qui va marcher dans toutes les situations. Mais je pense que ce texte, il a quand même des choses à nous apporter, puisqu'il a parlé à Élie et il a servi à quelque chose à Élie. Et l'autre question que j'aimerais vous poser, c'est que maintenant qu'on a bien compris ça, maintenant que Élie s'est exprimé sur ce qu'il avait vécu, parce que pour l'instant, il ne s'était pas beaucoup exprimé, comment est-ce que Dieu il démarre cette rencontre dans ce qu'on a lu? Qu'est-ce que tu fais là? Il lui pose une question. Elle est intéressante, cette question. Comment vous la comprenez, cette question? Que fais-tu ici, Élie? Parce qu'il le savait, Dieu. Exactement. Dieu qui connaît toutes choses. Il ne se retourne pas. Ah, mais t'es là, Élie, mais qu'est-ce que tu fais là? Non. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Derrière cette question, en réalité, il y a plein d'autres questions. Pourquoi t'es là, Élie? Qu'est-ce que tu attendais dans ce que tu avais vécu? Qu'est-ce que tu attends maintenant? Quel est ton état d'esprit? C'est une question qui invite à l'introspection, finalement. Et vous remarquez que Élie ne répond peut-être même pas forcément à cette question-là, d'ailleurs. Mais finalement, est-ce que c'est étonnant quand on est dans des moments de déprime, de dépression, de découragement? C'est quoi mes attentes? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Qu'est-ce que j'attends maintenant? Ce n'est pas forcément évident à formuler. N'empêche que Dieu, il l'invite à essayer de réfléchir à ça, à essayer de prendre conscience de cela. Finalement, la situation d'Élie avant son découragement et maintenant, elle n'est pas fondamentalement différente. Jézabel avait décidé de tuer tous les prophètes, déjà avant. Maintenant, c'est simplement que c'est un peu plus clair qu'elle en veut à Élie. Mais les gens se sont détournés de l'Éternel, c'était déjà le cas. Les gens ne priaient plus Dieu, les gens adoraient les idoles, les gens faisaient le mal. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc on peut se dire finalement que, probablement, Élie avait des attentes au travers de tout ce qui s'est passé, des attentes qui ne se sont pas réalisées. Et c'est probablement pour ça que maintenant, il est découragé. Quelles étaient les attentes d'Élie? Et quelles sont les attentes d'Élie maintenant? Alors, quelles étaient les attentes d'Élie? On en a un peu parlé, on s'en doute un peu. Genre, il s'était engagé émotionnellement, il a démontré par A plus B qu'il n'y a que l'Éternel qui est véritablement Dieu. Donc on imagine bien qu'Élie s'attendait à ce que quelque chose change, que le peuple revienne à l'Éternel, que le peuple abandonne les Baals et peut-être décide de virer le roi et la reine et en tout cas fasse le ménage, comme ça a été fait ou comme ça se fera à d'autres occasions. Et il ne se passe rien. Donc probablement la frustration d'Élie, c'est justement qu'il ne se passe rien. Rien du point de vue d'Élie. Maintenant, quelles sont ses attentes maintenant? Parce que là, c'était ses attentes dans le passé qui expliquent son découragement. Quelles sont ses nouvelles attentes maintenant? Le texte d'avant nous dit que Élie marche dans le désert, donc se retrouve seul, pendant 40 jours et 40 nuits pour aller à la montagne d'Horeb. Le mont Sinaï. La première fois que la Bible parle de la montagne d'Horeb, c'est quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Et Dieu donne son nom. Je suis Yahweh. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse qui va faire sortir son peuple d'Égypte et qu'il faudra qu'il revienne à cette montagne-là? Il faut faire un peu de géographie, mais quand on parle du Sinaï dans la Bible, en fait, c'est une région, c'est un désert. Mais le Sinaï, c'est aussi le nom d'un massif. Et c'est aussi le nom d'un des sommets du massif. Qu'on appelle aussi, alors il y en a qui disent qu'on appelle aussi, ou c'est le monde à côté, Horeb. D'accord ? Si je vous dis, je vais au sommet de Beldon, je peux parler du pic de Beldon, de la croix de Beldon, peu importe. Mais je veux dire, je parle du massif, je parle du mont, etc. Ça peut être du plus haut sommet, ça peut être l'un ou l'autre. Là, quand on parle d'Horeb, on peut le comprendre aussi comme Sinaï. On voit que quand Dieu se révèle à Moïse, il est question d'Horeb. Il dit à Moïse, tu vas revenir avec le peuple, et là, on commence à parler du Sinaï. Dieu donne la loi, sa loi, les 10 commandements, à son peuple, sur le Sinaï. Ils partent pour conquérir le pays promis. Bon, du coup, ils ont peur, ils ne le font pas, ils errent 40 ans dans le désert. Et puis, au moment de revenir dans le pays promis, Dieu leur rappelle l'alliance qu'il a fait avec eux, leur rappelle les 10 commandements, etc. Et ça, c'est Deutéronome, et on ne parle plus de Sinaï, on parle d'Horeb. Horeb, le terme Horeb signifie désert ou déception. On peut imaginer que c'est un peu l'état d'esprit d'Élie. On peut peut-être faire le lien de pourquoi on ne parle pas de Sinaï la deuxième fois dans Deutéronome, mais on parle plutôt d'Horeb, parce qu'il y a ce côté d'avoir traversé le désert et de la déception. Mais on peut aussi se rappeler que si Élie va à Horeb, peut-être qu'il pense à Moïse avec Dieu qui s'est révélé de manière incroyable. Peut-être qu'il pense aussi, parce que là il est en train de parler de l'alliance, du peuple qui a abandonné l'alliance. Il se rappelle peut-être que Dieu avait fait alliance avec ce peuple sur ce mont Horeb. Qu'est-ce qu'on peut lire dans Exode quand Dieu fait alliance avec le peuple? Je vous lis Exode 19. Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit un son de corne très puissant. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Dieu a manifesté sa grandeur avec Élie quand il fait tomber le feu du ciel pour consumer le sacrifice. Mais là, à Horeb, si Dieu a montré sa puissance, là, à Horeb, Dieu était effrayant. Dieu a fait trembler la montagne et Vénus dans le feu de manière éclatante, impressionnante, effrayante. Probablement, c'est ce qu'a... Élie voulait maintenant. Est-ce qu'il ne faudrait pas que Dieu se manifeste de manière encore plus évidente devant ce peuple ? Est-ce que Dieu ne devrait pas s'imposer comme c'était tellement effrayant ? Je ne vous ai pas lu la suite, mais quand les Israélites voient ça, ils disent à Moïse, « Ok, toi tu vas sur la montagne lui parler, nous on va t'écouter, on ne veut pas avoir affaire à ce Dieu-là de trop près. » Parce qu'il fait peur. Et probablement, Élie, il est là, mais est-ce que Dieu ne pourrait pas se révéler de manière encore plus éclatante ? Il l'a fait, bien sûr, ça n'a pas suffi. Mais dans l'histoire du peuple, quand il a fait alliance. Mais c'était violent. Et là, il n'y avait pas de question. Waouh, Dieu est comme ça. Alors, on va lire la suite. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Ce terme, bruissement doux et léger, en fait, en hébreu, il y a deux termes, juxtaposés. Le premier, il se traduit par un bruissement, comme là, ou un murmure doux et léger. D'accord ? Un chuchotement, parfois même un silence. Le mot racine veut dire être silencieux, voire muet. D'accord ? Tranquille. Le deuxième terme, c'est un nom avec un adjectif, et le nom parle d'une voix, d'un appel, mais l'adjectif dit ténu, léger, mince. C'est-à-dire, quelque part, il n'y a pas trop d'ambiguïté pour savoir comment comprendre. Il y a deux expressions qui disent quasiment la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'à peine perceptible. Dieu est présent dans quelque chose d'à peine perceptible. Merci. Qu'est-ce que cette théophanie, c'est-à-dire cette manifestation de Dieu, nous révèle sur lui ? La volonté d'être proche d'Élie. Il se manifeste, il peut se manifester de manière très discrète, à peine perceptible. Merci. Il veut l'apaiser. Ouais. Il sait ce dont Élie a besoin.
Élie pense qu'il veut quelque chose, mais en fait Dieu sait ce qu'il veut.
Jusqu'à présent, j'ai parlé des attentes d'Élie, je vais pas parler des besoins d'Élie, à juste titre, parce qu'effectivement, Dieu n'est pas en train de semble-t-il. Il n'est pas en train de répondre aux attentes, il est peut-être plus en train de répondre aux besoins, effectivement, probablement. Il sait ce dont il a besoin et donc il lui apporte quelque chose. Ouais. D'autres...
Qu'il attendait.
Il y a quelque chose, moi, qui me... Oui, vas-y. Exactement. Exactement. Dieu reste Dieu. C'est lui qui est souverain. Et là, il arrive, il l'apaise, pas par une parole, par sa présence, quelque chose de plus fort encore, par sa présence, d'une manière tellement subtile que presque Élie pourrait ne pas le voir. Il y a quelque chose de fou, là. Moi, j'y vois aussi le fait que, finalement, Dieu est en train de dire « Je suis là ». Déjà, il lui apporte sa présence. « Je suis là ». Mais je suis là quand tu ne le vois pas, ou quand tu ne le sens pas, ou quand tu ne l'entends pas. Je suis là dans le calme et la tranquillité, pas dans la violence et dans tout ce qu'il y a derrière. Pardon, je vais trop vite. Reviens, voilà. Ça m'a rappelé cette parole de Jésus qui dit « Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Jésus, fils de Dieu, est doux et humble de cœur. Et Dieu est en train de montrer à Élie, là, en fait, finalement, je t'apporte ma présence, donc je veux te restaurer dans ton découragement. Mais aussi, je ne suis pas un Dieu qui m'impose. Tu attends probablement des choses plus violentes, plus évidentes par rapport à ce peuple. Je ne suis pas un Dieu qui m'impose. Je suis un Dieu doux, je suis un Dieu qu'on choisit. Je suis un Dieu qui se révèle dans les choses les qui sont à peine entendables, perceptibles. Voilà, j'ai du mal ce matin avec perceptibles. Mais du coup, si cette manifestation de Dieu nous dit ça de lui, qu'est-ce que ça signifie aussi pour moi dans ma manière d'être en relation avec Dieu? Le fait que Dieu puisse apporter sa présence de cette manière-là. Qu'est-ce que ça change, moi, dans ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que ça peut changer? Ouais, peut-être déjà se poser nous, en fait, effectivement. Complètement. Pas juste ce qui se voit, finalement. Pas juste ce qui est éclatant. Évident. Il y a des choses subtiles qui se passent et Dieu est dans ces choses subtiles. Ouais, effectivement, à avoir ce regard-là. Ouais. 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 Donc se laisser bouleverser. Laisser Dieu sortir de la boîte un petit peu, se laisser... Ouais. Tout à fait. Quand est-ce que je peux entendre un murmure à peine perceptible? Je trouve un autre mot, j'ai choisi un autre mot. C'est ça. Comment je peux entendre un murmure doux et léger? Dans le silence. C'est pas dans l'agitation, c'est pas dans le brouhaha que je peux entendre ce murmure doux et léger, c'est dans le silence. Et vous remarquez comment les gens, d'une manière générale, nous peut-être aussi, on n'est pas à l'aise avec le silence. On monte dans la voiture, on met la radio. On rentre chez nous, on met la télé. On prend le transport en commun, on met un casque pour écouter quelque chose. Mais restez calme et silencieux devant Dieu. C'est quelque chose, c'est juste un défi, quoi, en fait. Pour rejoindre ce que Ulrich disait tout à l'heure, dans Ésaïe 30, on peut lire « Si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, c'est là que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Donc j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin d'être silencieux. Quand Moïse a rencontré Dieu, il était seul dans le désert. Quand Jacob a rencontré Dieu au torrent d'Yabok, il avait fait traverser sa famille et il était seul de ce côté du torrent. Quand Jésus avait besoin de se connecter au Père, il partait seul, loin de la foule, loin même de ses disciples. On peut se le dire de manière individuelle dans nos vies, mais on peut se le dire aussi en tant que communauté. J'entendais sur un podcast un pasteur qui racontait cette histoire. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais en tout cas, il racontait cette histoire d'un prêtre orthodoxe qui assistait à un culte évangélique, un culte typiquement évangélique. C'est-à-dire, il y avait un temps de louange, mais hyper dynamique, avec un bon groupe de musique qui entraînait tout le monde dans les champs. Puis il y a eu un temps de prière où ça fusait dans tous les sens. Tout le monde avait une prière à donner à Dieu. Et puis après, il y a eu un temps de prédication super inspirant et vraiment percutant. Et à la fin du culte, il y a le pasteur qui va voir ce prêtre orthodoxe qui dit « Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce temps que vous avez vécu avec nous ?» Et le prêtre, il dit, il hausse les épaules et il dit « C'est juste dommage que vous ne croyez pas ce que vous dites. » Comment ça ? Ben vous dites que Dieu parle, mais vous ne prenez jamais le temps de l'écouter. Est-ce que quand on a un temps de prière et que personne prie à haute voix, c'est un problème ? On n'est pas à l'aise, hein ? On n'est pas toujours à l'aise. Mais pourquoi ne pas avoir un temps de silence ? Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Mais habituellement, on n'est pas à l'aise avec le silence. Surtout en groupe, on se dit il n'y a pas quelqu'un qui veut prier. Puis on se dit qu'on a eu un bon culte ou un bon moment de prière s'il y a eu plein de prières. Enfin, moi, je le juge comme ça, à tort. Dieu est à l'intérieur, tout à fait. Je reviens sur plutôt notre vie personnelle. Si vous examinez votre relation avec Dieu, votre façon de vivre votre foi, ou s'il y a quelqu'un qui est plus jeune dans la foi et qui vient vous voir et qui vous dit « moi j'ai du mal à m'arrêter et à passer du temps avec Dieu », qu'est-ce que vous lui diriez ? Comment vous l'encourageriez ? Ou qu'est-ce qui dans vos vies pourrait vous encourager à vous arrêter et prendre ce temps de silence avec Dieu ? C'est une vraie question. Qu'est-ce que vous répondriez à ça ? Ouais, ouais. Essayez de trouver des choses concrètes. Commencez petit. Exactement. Les petits pas, c'est super important. C'est se dire quelque chose de réaliste pour commencer. Et puis après, on voit ouais. d'autres idées. Ouais. Ouais. Le lieu, c'est important. C'est vrai que ça peut aider de se dire ça, c'est mon lieu. Où il y a des gens qui ont leur pièce de prière. Ouais. Merci pour ces propositions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. L'idée, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux avancer là-dedans ? On passe à la suite, à la fin du texte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. Que fais-tu ici, Élie ? Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazael comme roi d'Assyrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat d'Abel-Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazael sera mis à mort par Jéhu. Tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. » Élie partit de là. Élie est profondément ou était profondément découragé. Dieu se manifeste à lui dans un murmure doux et léger. Est-ce que ça a été suffisant pour restaurer Élie et l'encourager à la lecture de ce texte? Il part. Donc, oui, il était arrêté, il repart. Donc oui, ça a suffi. Mais on a hésité à répondre, me semble-t-il. J'ai vu des gens qui faisaient un peu est-ce que ça a vraiment suffi? Alors, je ne sais pas si vous lisez un petit peu le soir avant de vous coucher, mais moi ça m'arrive, pas souvent, moins souvent que ma femme en tout cas, ça m'arrive. Puis des fois je suis fatigué et je lis trois fois la même ligne, et c'est là que je sais qu'il faut que j'aille me coucher. Quand je lis le texte ce matin-là, je me dis, mais je suis fatigué, c'est pas possible. C'est mot pour mot la même chose. Dieu lui repose la question et Élie répond exactement de la même manière, comme si rien n'avait changé. Donc par rapport aux attentes d'Élie, ce n'était pas ça. Par rapport aux besoins d'Élie, à la fin, il repart. Donc effectivement, là, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. On voit que Dieu répond finalement sur deux plans. Le premier plan, c'est de dire, en fait, Élie, le constat que tu avais fait là, je suis seul. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on lit un petit peu avant, on voit qu'il y avait un homme qui était proche du roi, qui avait sauvé 100 prophètes, qu'il avait mis de côté, en fait, caché dans deux cavernes différentes. Et là, Dieu est en train de lui dire, non, en fait, il n'a pas... Toi, tu penses être seul. Déjà, si tu avais lu ta propre histoire, tu saurais qu'il y en avait 100. Et en plus, il y en a 7000. Donc, en fait, tu te décourages, Élie. Tu te décourages, mais en fait, tu ne sais pas tout. T'as pas l'image complète, en fait. Tu regardes juste par ton petit bout de la lorgnette. Mais t'as pas conscience de ce qui se passe vraiment et de tout ce que Dieu fait. Donc ton constat n'est pas juste. Et deuxième élément, Dieu continue de réaliser son plan. Il envoie Élie, et Élie a sa place dans ce plan-là. Dieu est doux. Dieu ne s'impose pas. Dieu est présent dans ce murmure doux et léger. Ça ne veut pas dire que Dieu laisse tout faire et laisse le mal, parce que les paroles qu'il donne, c'est des paroles que le jugement arrive, que ceux qui font le mal seront mis à mort. Donc Dieu s'occupe du mal. Le plan de Dieu, même si moi je ne le réalise pas, même si je suis découragé, le plan de Dieu se réalise quand même, et Dieu fait quand même les choses bien. Et en répondant de cette manière-là, il me semble que Dieu donne deux choses à Élie pour l'encourager et lui permettre de redémarrer. La première chose, c'est que Dieu est présent. On l'a déjà dit. Le fait que Dieu, dans ce temps de découragement d'Élie, lui apporte d'abord sa présence avant de lui apporter une parole, enfin lui apporte une question, mais il lui apporte aussi sa présence. Pas de manière éclatante, pas de manière imposante, mais de manière douce et cachée, presque insaisissable, il lui dit « mais je suis là ». Et pour moi, ça c'est un point essentiel dans le découragement. Même si parfois je ne le vois pas, même si parfois je ne le saisis pas, Dieu est là, dans ces moments de calme et de silence, de manière imperceptible. Merci. Et la deuxième chose qu'il lui dit, c'est, et j'ai peut-être pas répondu à tes attentes, mais ce que je t'ai donné suffit. Et Élie peut repartir. Élie répond de la même manière comme si ça n'avait pas répondu à ses attentes. Mais pourtant, ce que Dieu lui a donné suffit. Alors oui, Élie aurait peut-être aimé plus. Oui, Élie aurait peut-être aimé différemment. Mais Dieu est en train de lui dire ce que je t'ai donné, juste là, ma présence. Ça suffit. Tu peux repartir. Et Élie repart. Du coup, j'aimerais terminer par un petit moment de silence avec trois choses qui, moi, m'ont questionné. Peut-être pour vous, il y en a d'autres, donc je vous laisserai répondre aux autres questions. La première, c'est peut-être que tu es en train de passer dans une phase de découragement, d'incertitude, de te dire Seigneur, je ne sais pas où aller là, en fait. Je suis seul, j'ai peur, je suis découragé, je suis déçu. Et cette question un peu, cette introspection, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu en es là? Qu'est-ce que tu attends, vraiment? La deuxième question, c'est comment est-ce que tu peux prendre un temps de calme et de silence pour laisser de l'espace à Dieu dans tes temps? Et la troisième réflexion que je vous donne aussi, c'est Dieu est là. Et peut-être que tu as besoin d'entendre que ce qu'il t'a donné est suffisant pour avancer. Oh, c'était peut-être pas ce que tu attendais. Mais ce qu'il t'a donné est peut-être suffisant pour avancer. Alors fais-lui confiance et avance. Je vous invite à prendre 2 minutes de réflexion par rapport à ces questions-là et de laisser Dieu vous parler ou de lui, afin que vous puissiez lui parler pendant ces 2 minutes.